Bonsoir à tous, bienvenue dans ce débat un peu spécial. Un an, jour pour jour, après le 7 janvier, l'équation de cette période post-attentat est difficile à résoudre. C'est vraiment une question de curseur. Comment satisfaire le besoin légitime de sécurité des Français sans bafouer les libertés? Depuis le 7 janvier 2015, pour faire face à la menace, le gouvernement a multiplié les mesures, les annonces, adoption d'une nouvelle loi sur le renseignement au printemps, mise en place de l'état d'urgence le 13 novembre, avec pour projet de l'inscrire dans la Constitution, ouverture d'un débat sur la déchéance de nationalité et puis préparation d'un nouveau projet de loi sur la sécurité. Ces mesures font-elles basculer la France dans une nouvelle ère? La démocratie française est-elle en danger? C'est le débat de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio Pascal Cherki. Bonsoir.
Bonsoir madame.
Vous êtes député du Parti Socialiste, député de Paris. Thierry Solaire, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député Les Républicains des Hauts-de-Seine.
Et l'état d'urgence dans une démocratie qui veut se défendre, mais qui veut aussi défendre ses libertés. L'état d'urgence n'a pas vocation à durer. Il obéit à des conditions déterminées et son régime juridique repose sur une loi de 1955 qui ne pouvait pas prévoir les actes qui sont indispensables. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé d'inscrire l'état d'urgence dans notre Constitution pour préciser les moyens qui pourraient être utilisés dans ce cadre. Car nos libertés doivent être garanties.
Nos libertés doivent être garanties. Voilà ce qu'a donc répété solennellement ce matin François Hollande. Pascal Cherki, est-ce que vous avez l'impression, vous, député de la majorité, qu'un an après Charlie, les mesures mises en place ou préparées par le gouvernement, dont la fameuse constitutionnalisation de l'état d'urgence, garantissent nos libertés ?
Sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence, moi j'ai dit dès le départ que je n'étais pas forcément opposé. Voilà pourquoi, parce que à partir du moment où on mettrait dans la Constitution une disposition qui dirait il existe un régime de l'état d'urgence, mais qui laisserait au Parlement le soin, un, de décider si oui ou non on le vote, d'en fixer la durée et les modalités concrètes, n'aurait pas de changement radical par rapport à ce qui se passait actuellement. Pourquoi à un moment donné le président de la République a souhaité et souhaite le mettre dans la Constitution, c'est parce qu'il dit qu'il faut lui donner une base juridique certaine, parce que comme un certain nombre de mesures qui sont prises sont dérogatoires à un certain nombre de libertés, notamment comme la liberté d'aller et venir, et qu'on veut confier à l'autorité administrative, au juge administratif, le contrôle de ces mesures, on peut se retrouver en contradiction avec l'article 66 de la Constitution qui dit que c'est le juge judiciaire qui est garant des libertés individuelles. Donc du point de vue de la sécurisation, parce que ça sert à rien de voter état d'urgence à l'Assemblée, si toutes les mesures comme les assignations à résidence, par exemple, pouvaient être annulées sur le fondement du non-respect de l'article 66 de la Constitution par un magistrat administratif. Sauf que, le Conseil constitutionnel a été saisi d'une QPC. Et a validé le mécanisme
prioritaire de constitutionnalité.
Voilà, et a validé le mécanisme des assignations à résidence avec 12 heures fixes au domicile de l'assigné, au lieu de l'assigné. Et a dit que ça n'était pas contraire à la Constitution. Donc ça n'est pas contraire à l'article 66. Il n'a pas assimilé cela à des mesures de rétention qui auraient justifié l'intervention du juge judiciaire. Donc le juriste que je suis, là je raisonne pas en politique, mais je suis quand même juriste, et donc c'est une question qui compte quand je vais ou non voter une loi. A fortiori, c'est une modification de la Constitution. Je me demande, mais je n'ai pas encore tranché la question, j'y réfléchis encore, je vous le dis très honnêtement, je me demande si oui ou non, c'est depuis la décision du Conseil constitutionnel, s'il est nécessaire ou non de l'inscrire dans la Constitution. Voilà. Mais je pense que les débats qu'il y aura en commission des lois, notamment les auditions qu'on va faire de magistrats, de juristes, je vais entendre aussi ce que pensent les autres collègues, pour faire une opinion définitive. Mais depuis la décision du Conseil constitutionnel, je suis moins certain qu'il faille le mettre dans
la
Constitution.
Il y a quand même eu, vous l'avez mentionné, il y a des avis qui ont été rendus, beaucoup de tribunes qui ont été signées dans la presse, des avocats encore il y a quelques jours dans Le Monde qui s'inquiétaient de cette possible inscription de l'état d'urgence dans la Constitution. Thierry Solaire, vous, pareil, si vous jetez un regard en arrière, ça fait un an aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez grosso modo de toutes ces mesures qui ont été prises? Est-ce qu'elles comprennent un risque pour la démocratie? Est-ce que vous comprenez les réserves qui sont émises par certains?
Bon, d'abord, Pascal Cherki vient de faire un point très juridique, mais assez juste, hein, de l'état de la situation. Quand on prend des mesures, il faut qu'elles aient une base juridique solide. Et c'est vrai que constitutionnaliser quelque chose, bah, ça permet de se garantir. Et c'est vrai que la saisine du Conseil constitutionnel par cette QPC donne déjà cette garantie. Donc au fond, si on est sur un plan purement juridique, technicien, la question mérite d'être posée. Deuxième réponse à votre question. Au fond, moi, ce que j'attends, mais je pense tous les Français, au-delà de la gauche et de la droite, c'est que le président de la République et le gouvernement assure la sécurité des Français. C'est la mission régalienne numéro un qu'on attend du président de la République. Et pour autant, on est dans un pays de liberté, et on n'a pas envie de renier nos libertés individuelles les uns les autres, parce qu'il y a des terroristes qui cherchent à nous terroriser. C'est d'ailleurs leur objectif, que de nous faire changer notre mode de fonctionnement. Donc il faut trouver des réponses pragmatiques avec des contre-pouvoirs. Très simple, le Parlement doit servir à cela, pour nous permettre d'avoir cela. Moi, je veux simplement dire une chose, c'est que les discours... Les grandes réformes constitutionnelles, d'inscrire des choses dans la Constitution, on va sûrement parler de la déchéance de nationalité pour les binationaux. Tout ça, c'est très intéressant, mais ce qu'il faut avant tout faire, me semble-t-il, c'est faire un grand audit général de notre chaîne de sécurité. Et de regarder, d'une manière pragmatique, sans idéologie, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je prends deux exemples très rapides. Au lendemain des attentats du 13 novembre, je suis allé dans une maison d'arrêt en Ile-de-France. Et le directeur de la maison d'arrêt m'a dit que dans la cellule... d'un djihadiste, quelqu'un qui était revenu de Syrie, qui est condamné pour acte de terrorisme, et qui est dans les prisons françaises, il avait découvert dans sa cellule un téléphone portable, avec la 4G. C'est-à-dire que ce terroriste, condamné dans une maison d'arrêt française, était en lien avec des organisations extérieures. Ce n'est pas de nature à assurer la sécurité des Français que de tels individus puissent en lien avec...
Et c'est manifestement pas un cas isolé.
Et c'est de toute évidence pas un cas isolé. Donc il y a un premier problème. Deuxième problème aussi rapide, un des terroristes du Bataclan, qui s'était fait sauter sa ceinture d'explosifs, en octobre 2012, la justice l'avait repéré depuis longtemps, elle le suivait. Il avait une fiche S pour des actes terroristes, donc il était suivi particulièrement. La justice prend une décision, elle l'assigne à résidence, elle lui confisque son passeport, avec interdiction de sortie du territoire. Il lui a simplement fallu, semble-t-il, déclarer son passeport perdu pour aller au commissariat du quartier et en demander d'en avoir un nouveau. Il a eu un nouveau passeport, il est reparti en Syrie.
Mais alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, l'inscription de cet état d'urgence dans la Constitution, c'est finalement pas la mesure la plus importante et que la priorité est ailleurs, Pascal Cherki.
Non, mais moi, je suis assez sensible à ce que dit Thierry Soler. Ça peut peut-être surprendre, mais je pense en effet que ce que les Français attendent de leurs dirigeants et de leur classe politique, ils ont raison, c'est qu'on prenne des mesures qui aient une utilité, une efficience. Qu'est-ce qu'ils attendent? C'est un, qu'on puisse éviter qu'il y ait des attentats. Et deux, s'il y en a, parce qu'il y en aura. Et c'est aussi la vérité, il faut dire la vérité, le risque zéro n'existe pas. Et s'il y en a, qu'on en recherche les auteurs très rapidement et qu'on puisse les livrer à la justice pour qu'ils soient jugés et condamnés. C'est ça qu'ils attendent de nous. Le reste, après, il y a du positionnement politique, il y a du symbole, il y a tout ce qu'on veut. Bon, ça existe, ça compte. Mais c'est peut-être pas au fond ce qu'on attend de nous. Et donc, la question de savoir si on a une chaîne de sécurité qui est efficiente, comme le dit Thierry Soler, est déterminante. Alors... Moi, je vais le dire sans polémique. Je pense que ça a été une erreur d'avoir supprimé un certain nombre de postes de policiers dans la précédente mandature. J'ai vu qu'un certain nombre de dirigeants de l'UMP le reconnaissaient, ils ont bien fait de le faire. Je pense que la réforme de la DGSI, telle qu'elle a été pensée, si intellectuellement pouvait être intéressante, pose des problèmes parce qu'on a complètement supprimé ce qu'on appelle la capacité, ou affaibli la capacité à détecter les signaux faibles. C'est-à-dire qu'on a fondu les RG qui avaient une utilité.
Un maillage territorial
voilà,
qui n'existe
qui,
plus.
Voilà, qui est
ou
affaibli.
Pas assez, ouais.
Vous pourrez même vous en rendre compte au niveau du budget que vous avez parfois toute une partie du fonctionnement même de l'appareil de renseignement qui ne dépend pas de la DGSI, qui peut dépendre d'autres directions de la police. Mais comme elles sont soumises à la rigueur budgétaire, ce qui n'est pas le cas de la DGSI, et vous avez des gens qui sont en difficulté pour pouvoir faire un travail efficace de renseignement de premier niveau. Et on se retrouve après avec un espèce de fichier S de 10 000 noms, dont il y en a qui sont très dangereux, d'autres qui pourraient l'être, d'autres qui ne le sont pas, mais à surveiller, et on ne sait plus quoi faire de ça, etc. Bon. Donc je pense en effet qu'il faut qu'on ait une réflexion très pragmatique, très pratique, sur comment on assure dans une démocratie la sécurité. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas ça, à chaque fois que nous sommes confrontés à des attentats, il pourrait y en avoir d'autres, si on réagit par l'émotion, par la volonté de vous faire des symboles.
On va aller de plus en plus vers un état policier en rajoutant, en donnant de plus en plus de prérogatives, c'est ça ce que vous craignez?
C'est qu'on va se retrouver on va pas tous les six mois se poser la question de quelles modifications constitutionnelles on va faire. Bon, on a quand même un appareil pénal qui est très répressif dans ce pays, qui est fort, il y a des lois qui ont été votées depuis des années. La question, moi, elle m'apparaît plus de savoir si oui ou non on a suffisamment de magistrats antiterroristes, si on a un parquet antiterroriste assez fourni, si on a assez de greffiers, si on a assez de fonctionnaires de police. Bon, c'est de cette question-là comment on organise un appareil de sécurité de manière moderne. Pourquoi? Parce que sinon, on est dans le symbole, on est dans la course à l'échalote, et on va faire, nous, ce qu'on pourrait être amené à faire, nous, ce qu'on a reproché à Nicolas Sarkozy quand il était en responsabilité, c'est-à-dire, à chaque fois qu'il y avait un événement, on fait une nouvelle loi. Bon.
Alors justement, pas une nouvelle loi à chaque fois et pas une nouvelle inscription, une nouvelle modification de la Constitution. Alors Thierry Solaire, est-ce que, à votre avis, on peut encore parler d'un état de droit quand aujourd'hui on veut inscrire dans la Constitution que peut être arrêté ou assigné à résidence toute personne à l'égard de laquelle il existe de sérieuses raisons de penser que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité? Ça veut dire quoi, sérieuses raisons de penser? On a considérablement ouvert le champ. On n'est plus sur une intention claire, on a juste des raisons de penser. Ça, c'est pas un peu dangereux?
Mais si, bien sûr.
C'est Minority Report.
Non, mais franchement, la personne qui va vous dire que non ne sera pas très lucide. C'est potentiellement
c'est
dangereux.
C'est ça ce qui est proposé comme modification.
Ce qui est encore plus dangereux, c'est des gens qui organisent de se mettre des ceintures d'explosifs et d'arriver près du Stade de France alors qu'il y a 80 000 personnes dans le stade. Ça me paraît encore plus dangereux. Donc il faut bien prendre des mesures. Après, parce qu'on est dans un état de droit, et la France est un magnifique état de droit, très abouti, il y a à trouver
mais
un bon curseur.
Mais on reste dans un état de droit quand on, oui, quand on oui, s'oriente non, vers ce genre...
Franchement, personne qui vous dira non, d'ailleurs, j'entends Pascal Fier qui vous dit oui également, et il est de gauche et moi de droite. Oui, bien sûr, on reste dans un état de droit, et c'est fort heureux. Mais encore une fois, moi, je veux bien qu'on évoque tous ces sujets-là autant que vous souhaitez, hein, c'est très intéressant. Mais pardon, on est assez d'accord. C'est d'ailleurs rare qu'un homme de gauche et un homme de droite soient d'accord sur ces sujets-là, et en évitant toute polémique. Moi, je suis pas là pour regarder ce qui a été bien fait ou mal fait dans les 30 dernières années par la gauche ou par la droite sur ce sujet. Ça m'intéresse assez peu. Hein. Je ne suis pas historien de la vie politique française. Ce qui m'importe, c'est qu'on est en 2016, c'est que dans cette année 2016, parce que je suis parlementaire comme Pascal Chakri, on se dote de toutes les bonnes décisions qui permettraient, sans changer de modèle de vie. Parce que
donc
c'est ça
revenir,
qu'on veut faire.
Par exemple, sur la réforme des RG, est-ce que ça c'est quelque chose, une réforme que vous porteriez?
Oui, sur les renseignements généraux, je pense que la RGPP dans la police n'a pas été une bonne chose et qu'il y a besoin d'un maillage de renseignement territorial. Moi, je le vois dans la commune où je suis élu, il y a 10-15 ans, il y avait un agent des renseignements généraux, qu'on a appelé ça, qui était là dans la zone urbaine sensible. C'était un garçon qui vivait pas là, d'ailleurs, personnellement, mais enfin, en tout cas, qui passait toute sa vie, qui connaissait toutes les familles. Et quand il y avait un gamin qui commençait à pas aller bien, il attrapait le gamin par l'oreille, il allait voir son père, c'était la phase numéro 2. Et puis la phase numéro 3, c'était...
La détection des signaux faibles.
C'est ça. Aujourd'hui, ça existe moins, et ça, c'est vrai, c'est une erreur. Donc, je pense qu'il faut réparer les erreurs. Mais après, il y a plein d'autres choses à faire. Enfin, je veux dire, la justice, Pascal Cherki en parlait. Vous savez, on consacre quasiment deux fois moins que les Allemands à la justice de notre pays. La moitié de la justice du budget, c'est en gros le monde pénitentiaire, et l'autre moitié, c'est le reste. Il y a les tribunaux, la moitié. Bon, de toute évidence, ça va pas. Et moi, ce que j'attends...
Alors, pardonnez-moi, parce que en vous écoutant parler, j'ai l'impression que finalement, il y a un consensus possible sur certains sujets à l'Assemblée nationale. C'est pas franchement le ton qui transparaît de d'autres débats, et on parle surtout de beaucoup d'autres mesures. Alors, il y a évidemment la déchéance de nationalité qui a réussi à rester après la trêve des confiseurs, qui cristallise encore...
Mais je vais vous répondre très clairement, il sera peut-être moins d'accord, parce que pour le coup, c'est un propos politique, mais je l'assume parce que je le pense profondément.
Vous pensez que cette mesure-là, elle est nécessaire?
Je pense que profondément, François Hollande fait plus de politique que n'a le courage de prendre les bonnes décisions pour le pays. Que sa seule boussole, c'est de regarder l'élection présidentielle. C'est un des maux de la vie politique française de penser à sa réélection à chaque fois. Et que, au fond, il est président de la République pendant encore un an et demi. Et que c'est énorme. Et que la responsabilité est considérable. Et que moi, j'attendrais. Je veux dire, quand un avion, une compagnie aérienne connaît un crash aérien, il y a un audit de sécurité. Quand il y a eu le crash Paris-Rio, je peux vous dire qu'il y a un audit très précis de toute
mais
la chaîne.
Mais là-dessus, je crois que Pascal Cherki était d'accord sur l'audit
Pascal
Cherki
qui serait nécessaire. Un homme raisonnable et intelligent. Mais je l'entends ça chez certains, mais pas partout.
Pascal Cherki?
Non, mais sur la question de l'audit de sécurité, oui. Je veux dire, il y a un consensus qui existe en République. Personne ne nie que nous sommes sous la menace d'un certain nombre d'actions dites terroristes. Moi, là où j'ai un bémol, c'est que je pense qu'elles ont lieu pour des raisons qui sont... non pas des raisons irrationnelles, comme on peut le dire, mais simplement parce que la France est engagée sur un certain nombre de théâtres d'opérations extérieures, et d'ailleurs à bon droit dans un certain nombre de cas, en Afrique, maintenant au Moyen-Orient, et que donc on contrarie l'action d'un certain nombre de forces politiques dans ces autres pays-là, et que donc c'est un grand classique d'avoir tentation de faire pression sur la politique étrangère française en exportant par des actions terroristes le trouble dans cette société, dans la société française, pour amener à faire pression.
Donc c'est... la solution, elle est aussi dans notre politique étrangère?
Donc, non, pourquoi je dis cela? Je dis qu'à partir du moment où nous sommes dans cette situation, on ne peut pas dire à notre population qu'il n'y a pas de risque, ou alors on ne peut pas présenter le terrorisme comme quelque chose d'un mal abstrait. Voilà. Ça a une histoire, ça a une connexion, ça a une rationalité. Bon, il faut le combattre. Après, il y a un sujet qui est nouveau dans notre pays, où il faut qu'on le traite, et je pense qu'il faudrait du temps pour y répondre. C'est aussi un phénomène d'autoradicalisation d'une partie de la population française binationale ou pas, d'ailleurs, avec des choses qui me rappellent beaucoup la même autoradicalisation qu'on a pu avoir dans les années 70, où là c'est l'islam imaginaire, là on avait le communisme international imaginaire autour de la bande Abadère, l'armée rouge, la fraction armée rouge, etc. Roy. Bien sûr, et moi je suis assez d'accord avec Olivier Roy quand il dit que plus qu'une radicalisation de l'islam en France, on a une islamisation de la radicalité, pour certains. Bon. Et donc ça, c'est des sujets qu'on ne traite pas à coup de loi constitutionnelle ou autre, ça demande un travail en profondeur.
Et ça demande plus de moyens, finalement, que de réformes et de nouvelles lois.
Non, mais c'est compliqué d'y répondre en 3 minutes sur ces questions-là. Mais oui, on ne peut pas avoir qu'une réponse du point de vue de la sécurité. Je pense qu'il faut aussi qu'on ait une réponse sociale et sociétale beaucoup plus importante et qui n'est pas simplement dans il faut rappeler la Marseillaise, il faut expliquer aux gamins ce que c'est les grands principes, etc. Bon, tout ça, oui, compte, mais à un moment donné, il faut se poser la question. Et quand le Premier ministre dit, même si moi je ne fais pas de lien de cause à effet, ce n'est pas pour moi une justification pour commettre des actes terroristes, je le dis en préalable, mais quand on vous dit que vous avez dans notre pays des parties entières du territoire qui sont victimes, je reprends ces termes, de janvier 2015, d'apartheid territorial, ethnique et social, quand vous faites un constat comme ça et que vous êtes Premier ministre de la France, vous ne pouvez pas rester pendant un an les bras croisés. Donc si c'est ça le constat, si en France il y a de l'apartheid, quand on n'est pas le gouvernement raciste blanc d'Afrique du Sud, ben alors à ce moment-là, on prend les moyens budgétaires pour lutter contre l'apartheid, les moyens sociaux pour lutter contre l'apartheid, les moyens économiques pour lutter contre l'apartheid. Mais on ne peut pas simplement, quand on gouverne, faire des constats et pas en tirer de conséquences.
Thierry Solaire.
Vous êtes encore plus dur que moi sur le gouvernement que vous êtes censé soutenir.
Mais je le dis de tout gouvernement. Je le disais de manière très virulente quand c'était Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas un discours dans l'opposition, un discours dans la majorité.
Ouais. Sur ce sujet, moi, je ne rentrerai jamais dans la culture de l'excuse. Je ne dis pas des difficultés. Je veux quand même rappeler qu'il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui offrent une éducation gratuite à chacun. Même si vos parents n'ont pas d'argent, vous avez accès à l'éducation en France. Il n'y a pas de pays au monde qui donne des minima sociaux à chacun. Il n'y a pas de pays au monde où, quand vous êtes malade, même si vous n'avez pas de travail et pas d'argent, vous êtes soigné quand vous avez une maladie qui est très coûteuse à soigner. Donc, moi, je ne veux pas rentrer dans cette culture de l'excuse. Je ne nie pas des difficultés.
Vous avez raison, de nombreux Français. Il n'y a pas d'excuses à avoir pour
je pense que oui, mais souvent, vous ne le faites pas là, j'entends, mais souvent, certains sont dans cette logique-là. Il y aurait une excuse à la radicalisation. Il n'y en a pas. Et le rôle de l'État est d'assurer la sécurité publique et de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui veulent nuire aux intérêts du pays en s'y attaquant.
Mais ce que disait Pascal Cherki, c'est que le chantier finalement était aussi social et économique. Est-ce que vous partagez ce constat-là ?
Mais bien sûr. Je veux dire, le problème qu'a la France, c'est que c'est une machine depuis de nombreuses années à fabriquer du chômage de masse et de la pauvreté. On a aujourd'hui 8 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs. 40 000 chômeurs le mois dernier, vous rendez compte, le nombre de familles touchées, c'est une ville très importante. D'un coup, il y aurait des adultes qui seraient devenus chômeuses en un mois. C'est considérable. Et rien ne peut aller bien dans un pays qui ne fait que détruire de l'emploi et qui ne fait que de créer de la pauvreté. Donc, il y a deux grands chantiers dans notre pays. Un, faire ce que de nombreux pays européens ont fait, et d'ailleurs, regardez dans les pays européens, tous les mois, on crée de l'emploi. De manière positive. C'est-à-dire réformer l'État, le recentrer sur ses missions régaliennes, arrêter de dépenser de l'argent partout. Et deux, bien assurer ce qu'on fait mal, les missions régaliennes de l'État, la justice, la sécurité et la défense, et réformer clairement l'éducation nationale, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une machine aussi qui ne fonctionne pas. Tout le monde a le bac, c'est très charmant sur un plan intellectuel, et on a 25% de nos jeunes qui sont au chômage. Moi, je préférerais avoir moins de gens au bac et plus de jeunes dans l'emploi. Et
puis parce que vous pensez que les employeurs au Chine ont embauché quelqu'un parce qu'il a le bac ?
Je pense que quand vous avez envoyé un gamin au bac et dans des études supérieures pour lesquelles il n'était pas fait, qu'il a fait 2 ans de sociaux dans je ne sais pas quelle fac et qu'il n'y a aucun job pour lui, il va se retrouver d'intérim en intérim et il va vite se retrouver pas bankable. Alors que vous avez beaucoup, beaucoup de formations, il faut revaloriser l'intelligence de la main, aujourd'hui qui ne sont absolument pas pourvues. Regardez, pas à l'autre bout du monde, hein, en Suisse, c'est un pays frontalier de nous. Il y a un tiers des gamins qui sont en apprentissage, il y a 4% de taux de chômage.
Alors justement, l'apprentissage, la formation, ça fera l'objet d'un autre débat puisque François Hollande doit présenter son plan dans une dizaine de jours. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup à nos deux invités, Pascal Cherki, député du Parti Socialiste, et puis Thierry Solaire, député Les Républicains. Merci également à Alexandre Serre, à Hélène Avril pour la préparation et la réalisation de cette émission. Demain, vous retrouvez François Bernard. Mitterrand, Hollande, peut-on gouverner la France à gauche? En attendant, c'est l'heure du journal En français facile.
Sept milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend.